podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 7 mars. Salut Martin.
Hello, hello.
Tel que promis, on reçoit un invité aujourd'hui en lien avec un dossier dont j'ai glissé un mot, je crois, hier, mais je voulais traiter ça avec quelqu'un de crédible qui s'y connaît, c'est-à-dire notre ami et surtout avocat spécialisé en droit des peuples autochtones chez Niché, chez Champoux, Alexis Wawanolowat. Salut Alexis, ça va?
Oui, Frank. Oui, Martin. Ça va, vous autres?
Ça va très bien. Là, la nouvelle, ça concerne la DPJ qui a été sévèrement blâmée par un juge parce que elle a décidé de placer un enfant inuit à plus de 1600 kilomètres. Mettez ça dans votre tête, là. 1600, tu sais, Québec-Montréal, c'est en 300 kilomètres. 1600 kilomètres. De sa mère. On a vraiment comme séparé cette famille-là. Et en plus, la mère, les seuls contacts qu'elle peut avoir avec son enfant, son bébé...
FaceTime!
C'est FaceTime, tu sais. Puis ça, on n'a pas fourni d'explication, en tout cas pas dans l'article que j'ai sous les yeux, mais le juge a qualifié ça de cruel. Puis évidemment, ben, ils fustigent la DPJ parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la culture, de l'identité culturelle de cet enfant-là en l'envoyant chez une famille de Blancs dans le sud du Québec, complètement hors de portée de sa mère et de sa famille. Il évoque même que ça pourrait être quelque chose de systémique qui serait pas arrivé juste une fois. Est-ce que tu es au courant de ça, Alexis?
Je suis au courant qu'il y a beaucoup d'enfants inuits qui sont sortis de leur famille puis sont envoyés dans des familles dans le sud. Fait que le calcul de 1600 km se fait très rapidement, là. Puis c'est courant. On n'a pas les mêmes paramètres en général pour déterminer qui est une famille d'accueil acceptable ou pas. Puis bref. Il a fallu peut-être justement que ça tombe dans le cours du juge La Douceur, parce que le juge La Douceur a vraiment une jurisprudence intéressante en matière de protection de la jeunesse reliée aux Autochtones, où il s'est jamais gêné de taper sur les doigts de la DPJ quand ils prennent pas en compte justement la spécificité culturelle des enfants autochtones. Dans d'autres situations, j'ai lu quand même une couple de ces jugements, puis c'est ça, il est sensibilisé à cet aspect-là. Malheureusement, c'est pas tous les juges qui ont cette sensibilité-là. Tu m'as envoyé l'article, Frank, puis je suis allé regarder les commentaires dans le journal de Montréal.
Oh mon Dieu, faut jamais faire ça, Alexis. Tu veux rester de bonne humeur, là? Oh, de quoi ça va?
T'aurais dû nous en parler avant.
On le traite de juge woke.
Comment?
On le traite de juge woke.
De juge woke?
Ah ben ça, ah, ça ben,
mais maintenant, si tu fais preuve d'une certaine sensibilité ou d'un bon sens ou que tu prends en compte des paramètres humains, des choses comme ça, t'es woke. Si tu te fous pas de tout le monde, t'es woke, puis woke, ça a l'air que c'est péjoratif.
Ouais, fait que bref, à cause que lui, justement, il prendra en compte l'aspect culturel au-delà de l'intérêt de l'enfant. Puis c'est tout le temps ça, justement. On n'a pas la même définition exactement de qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant par rapport à la LPJ, entre autres la loi de la protection de la jeunesse, ou la loi sur les familles, les enfants autochtones, métis, inuit et de Première Nation, qu'on appelle communément la loi C-92, la loi qui permet aux communautés de faire leur propre loi de protection de la jeunesse. Ah. On vient définir justement différemment qu'est-ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Dans la loi fédérale qui s'applique aux Autochtones, on vient mettre l'intérêt de l'enfant plus de façon globale comme étant son appartenance culturelle.
Ouais, du côté de la DPJ. Vas-y.
on évacue ça un peu de la LPJ puis de la DPJ.
Mais c'est ça, la DPJ, dans leur argumentaire, disent, ben, un enfant, c'est un enfant, puis son identité culturelle, ça passe en deuxième. Mais, tu sais, comme ils disent que ça, l'identité culturelle passe après le bien-être de l'enfant, mais l'identité culturelle, me semble, fait partie du bien-être de l'enfant, surtout si la culture est, radicalement différente d'un endroit à l'autre. On parle pas de quelqu'un qui était au village Huron puis qui s'en va à Saint-Émile, là, tu sais, on parle de, une communauté inuite, ils vivent pas de la même façon, ils ont pas la même culture, ils apprennent pas les mêmes choses, c'est complètement différent. C'est pas genre, avant, ils prenaient pour les Nordiques à Québec, on l'envoie à Montréal, prendra pour les Canadiens. C'est pas mal plus profond que ça, là, tu sais. C'est
profond que ça, tu sais.
La langue, en partant.
La langue, je reviens souvent avec l'exemple de Xavier Mouchoum. Je l'ai peut-être déjà fait avec vous autres, là, je m'en rappelle plus. Mais bon, Xavier Mouchoum, c'est un Anishinaabe de Lac-Simon qui a été sorti comme ça de sa communauté par la DPJ. Puis comme beaucoup d'enfants autochtones, il est arrivé à un moment donné où il a eu 18 ans. Puis il te donne ton sac de poubelle avec tes affaires dedans. Puis, vas-y, mon grand, tu es maintenant un adulte, donc retourne.
T'es prêt, là. Vas-y.
Vas-y. Mais bon, qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là souvent? C'est qu'ils reviennent dans leur communauté. Ils reviennent dans leur communauté. Et là, bon, leur famille, ils la connaissent pas. Parce que souvent, on leur a même pas permis d'avoir des contacts familiaux. Là, c'est des contacts avec cet enfant-là FaceTime. Donc, est-ce qu'il va avoir des contacts avec ses cousins, ses oncles, grands-parents, et ainsi de suite? Donc, il n'y a pas cet aspect-là là, qui est très important comme des liens familiaux. Après ça, il parle pas la langue. Xavier Mouchoum est revenu dans sa communauté, il parlait pas l'Anishinaabe, puis il savait juste parler le français. Il fait qu'il était déconnecté d'un aspect encore là important. Mettons qu'il y avait eu des grands-parents qui parlaient juste Anishinaabe, il aurait pas pu communiquer avec eux. Puis tout l'aspect culturel par rapport au territoire, aller à la chasse, par rapport à connaître puis se débrouiller en forêt. Ben, c'est tous des éléments qui avaient été coupés comme de son éducation. Donc, ils se retrouvent, ces enfants-là se retrouvent à arriver à l'âge adulte, reviennent dans leur communauté, sont ni considérés comme membres de leur communauté, eux autres se retrouvent complètement débalancés entre deux mondes. Donc,
ils sont comme aliénés des deux côtés.
Ouais, l'intérêt de l'enfant, ça veut dire que cet enfant-là va devenir adulte, va se construire une identité, tu sais. Puis souvent, comme on est Inuit ou autochtone, on peut pas la cacher trop notre identité, tu sais.
Fait que tu sais, il se retrouve aliéné des deux. Vas-y, Martin.
Ben, je veux faire du... Je veux rembarquer là-dessus, là. Je te lis une citation de la directrice par intérim de la DPJ dans ce dossier-là. OK? Écoute ça, là. Le but était de trouver la meilleure personne pour prendre l'enfant en charge indépendamment de sa culture. Un enfant, ça, c'est une citation. Un enfant, c'est un enfant. Sa culture ne passe pas en premier, avait-elle ajouté, démontrant son manque flagrant de considération pour l'aspect culturel de l'enfant, selon le juge. Étonné de ses propos réducteurs, il décrit le témoignage de l'intervenante comme préoccupant à raison des fonctions qu'elle occupe et sa position hiérarchique. Tu sais, quand on parlait tantôt, Frank mentionnait en ouverture, tu sais, que ça semble être systémique. Tabouais, ça prend quoi? Ça, puis un coup de batte dans le front, c'est la même affaire, là.
C'est assez clair.
Puis, ben, c'est ça, des enfants, ils sont retirés de même, puis... Ça prend le juge de la douceur pour venir dire à la Commission des droits de la personne puis de la jeunesse... de venir faire leur travail.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il a proposé qu'il y ait une formation qui soit suivie sur la culture pour ces gens-là de la DPJ. Parce que si elle ne considère pas que la culture fait partie du bien-être de l'enfant, alors qu'on sait, d'après ce que tu nous as dit, puis d'après ce que l'on sait aussi, que cet enfant-là apprendra pas sa culture, il va peut-être se sentir ni québécois ni inuit, il va revenir, il parlera pas la langue, puis aussi peut-être se mettre au fait de la façon d'élever les enfants qui est pas la même, tu sais, ici c'est les parents qui s'occupent de l'enfant dans l'entonnoir comme ça, mais si je me trompe pas, tu me corrigeras. Mais dans des communautés des Premières Nations, souvent il y a une espèce de d'aspect communautaire pour élever les enfants. Un peu tout le monde peut s'impliquer, la famille élargie, puis c'est pas ouais, exactement non, le même fonctionnement.
Il peut être quelqu'un de proche, justement, il y a des ententes qui sont faites comme ça quand on n'est pas capable de s'occuper de l'enfant. Bon, ben ça va être la coucoum, la grand-mère ou le mouchoum, le grand-père... qui va pouvoir le prendre pour un temps, le temps que les parents se rétablissent. Le lien de filiation se défait pas quand même. Ces personnes-là savent que leur c'est qui leurs parents, mais bon, ils savent c'est qui les a élevés aussi. Puis,
ils sont pas déracinés, là.
Ils sont pas... Non, c'est ça. Puis, on le voit dans les systèmes de protection de la jeunesse qui sont gérés par les communautés, ben ces déracinements-là, des fois, on est obligé de les placer dans des familles d'accueil, les enfants. Puis la protection de la jeunesse, la protection de l'enfant est quelque chose d'aussi important pour les peuples autochtones que l'État colonial. Mais il reste que la façon de le faire fait en sorte que... au pire du pire, quand on n'est même pas capable de trouver une famille d'accueil autochtone, ben on s'organise pour que l'enfant ait des contacts avec sa communauté, puisse aller dans le bois, puisse continuer à voir ses cousins et ses cousines, puis à aller régulièrement dans chez eux, tu sais. Donc, j'en ai vu des situations où on avait tout fait le possible pour essayer de trouver une famille d'accueil qui était de la communauté de la personne, mais on n'a pas réussi à le faire. Mais l'enfant est quand même, sait qu'il est en lien, puis continue à avoir cet héritage-là, puis il n'y a pas de coupure qui est faite comme on le voit souvent avec les enfants de la DPJ qui deviennent adultes.
J'aime beaucoup comment tu dis, est un colonial en pensant.
Alexis, tu sais, qu'est-ce que ça dit? Là, c'est une question slash affirmation, mais tu sais, qu'est-ce que ça donne comme indication quand t'as un commentaire comme ça d'une directrice par intérim de la DPJ qui dit « Notre objectif, c'était de trouver la meilleure personne pour l'enfant. L'enfant, il était dans une communauté. T'es en train de dire que dans toute la communauté, il existe aucun être humain qui aurait été mieux placé pour élever ou accueillir cet enfant-là qu'à 1600 kilomètres au sud. » Tu sais, c'est conceptualiser ça, là.
J'ai pas les détails.
Ouais, je comprends, là.
L'histoire, là. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je peux pas trop me prononcer. Mais il reste que, les critères pour évaluer une famille d'accueil. Parce que pour devenir une famille d'accueil, faut que tu passes par une évaluation. Donc, est-ce que tu as une chambre pour chaque enfant avec une fenêtre qui te donne dehors? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Quand on a des critères comme ça où il faut une chambre pour enfant, puis on est dans des endroits où il y a une surpopulation, où des fois on a deux ou trois familles par maison,
on vient... OK, fait que ça peut être plus logistique à propos des humains, là.
Technicalité.
Ça peut... Non, mais c'est que ces critères-là, logistiques... viennent faire en sorte que des familles d'accueil qui auraient pu être des bonnes familles d'accueil...
Ils peuvent pas
à cause de ces critères-là.
Donc, pour une technicalité, on va priver cet enfant-là d'une famille d'accueil qui serait dans sa culture, puis on va l'envoyer chez des Blancs à 1600 km. Mais
Jésus,
il y en a plus qu'une, là, je veux dire, ça descend, tu sais, jusqu'à Chisasibi, puis avance, tu sais, tout le long de la Grande, il y en a des Cree, puis des Inuits, là, il y aurait sûrement eu moyen, tu sais, admettons que je peux comprendre que le choix peut être limité dans une certaine communauté, mais... Il n'y a pas juste une... J'ai de la misère à croire qu'il n'y avait pas d'autre choix.
Moi aussi. Parce que je résume, là, ce que vous êtes en train de dire, les boys, là, c'est qu'il y avait peut-être une famille parfaite pour cet enfant-là, mais il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre, genre.
C'est des éléments qui seraient possibles. Là. J'ai vraiment pas...
Non, on s'en... Je te demande pas, là.
On parle d'un cas.
Non plus, là. Mais encore là, je veux revenir sur le juge de la douceur, oui. Parce que la façon de penser de l'intervenante, là... Il y a bien des juges qui partagent cette façon de penser-là. Puis on n'a pas encore un jugement à Cour d'appel du Québec ou à des tribunaux supérieurs qui viennent comme obliger les juges à suivre cette jurisprudence-là. Dans la mesure où j'ai déjà vu une situation où un juge a décidé d'envoyer l'enfant autochtone dans une famille blanche. Sans même permettre de contact avec sa famille élargie.
Ouais, ça, c'est...
Que c'était dans le meilleur intérêt de l'enfant. Puis,
ça ressemble au pensionnat, là, on les coupe de leur
culture. En ayant plaidé la loi C-92, l'intérêt culturel, puis tout ça, le fait que la famille était intéressée à la culture d'origine de l'enfant, puis suivait des cours de langue, puis on envoyait l'enfant dans une garderie autochtone, ça semblait correct pour le juge.
Si. Ouais, ben c'est ça qui, j'imagine... A motivé ou ben a suscité chez le juge la douceur de parler de l'aspect systémique, parce qu'il doit savoir que ses confrères puis que beaucoup de gens ont ce genre de réflexion là. Bon, ils ont lu un livre là, Les Indiens d'Amérique, c'est parfait, tu sais, ils connaissent la culture, tu sais, c'est pas mal plus profond que ça là. Astérix chez les Indiens là, puis c'est ça, on peut l'envoyer.
Non, ben, l'intérêt de la famille était un petit peu plus au-delà de ça. Il suivait des cours quand même. Tout ça, mais il reste
caricatural, là, mais...
On n'a pas permis à cet enfant-là d'avoir des contacts avec ses grands-parents, des contacts avec ses cousins puis ses cousines. Puis cet enfant-là va finalement grandir dans cette famille-là d'accueil jusqu'à majorité en étant en grande partie coupé en milieu urbain, en étant en grande partie coupé de sa culture. Donc, des juges de la douceur, il y en a pas beaucoup, il y en a pas tant que ça qui sont qui ont sa sensibilité. Le juge de la douceur, j'ai vu un documentaire où on parlait justement des peines. Là, je dévie un petit peu là, mais on voyait le juge de la douceur justement rendre des peines en criminel, où au lieu d'envoyer le cri en prison, il l'envoyait à la chasse puis dans le bois pour redonner à la communauté puis apprendre sur sa culture.
Ah. C'est intéressant, ça.
Donc, ah, mais ça, hey, wow, c'est ben trop woke, ça, là.
Oui, c'est woke.
hey, c'est ben trop woke, là.
Ah, un woke, ça doit être un vrai woke.
Ce qui m'a frappé aussi dans ce dossier-là, c'est que le juge a qualifié de cruel la façon de limiter les contacts ou presque, tu sais, pas juste limiter, il n'y en a plus de contacts, là, c'est juste des FaceTime, puis tu sais, c'est préoccupant, puis j'ai de la difficulté à savoir qu'est-ce qui a pu mener la DPJ à limiter les contacts de cette façon-là. Est-ce que c'est juste par la distance qu'il dit ça, ou bien parce que il n'y a pas l'air d'avoir de raison valable de limiter les contacts avec la famille pour cet enfant-là. On dirait qu'on veut juste comme le déraciner complètement, là.
Ben, c'est pas nécessairement la volonté de la DPJ de le déraciner. Mais on vient encore là jouer sur la définition de qu'est-ce qui est l'intérêt de l'enfant.
Ouais, c'est ça.
L'intérêt de l'enfant, l'intervenante là, qui est en plus haut placé hiérarchiquement dans l'appareil de cette direction-là, de la protection de la jeunesse, est venue dire que la culture, c'est pas primordial. Donc, c'est quoi l'intérêt de l'enfant? Ben, l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il mange bien, qu'il soit dans une famille d'accueil aimante, chaleureuse, où tous ses besoins soient répondus de façon primaire. Mais on voit pas comme cet aspect-là du contact avec la famille comme quelque chose de primordial. Puis, bref, il y a l'intérêt de l'enfant, mais après ça, justement, si on se place dans une perspective autochtone, ben l'intérêt de l'enfant, c'est son lien avec sa famille, son lien avec sa nation, son lien avec sa culture aussi. Puis là, ben l'intérêt de la mère et les droits de la mère, justement, de pouvoir continuer à avoir des contacts avec l'enfant est carrément tassé. Est-ce qu'il y avait un plan de continuation culturelle? On dirait pas que c'est comme maintenant devenu quelque chose de très important que les directions de la protection de la jeunesse, quand ils ont un enfant autochtone, mettent en place un plan de continuité culturelle. Est-ce qu'il y en avait un? C'était quoi la façon de faire en sorte pour que cet enfant-là puisse, malgré le fait qu'il soit placé dans une famille d'accueil non autochtone, puisse avoir une continuité, puis envers sa culture? Donc, c'est tous des éléments, justement, que souvent, on ne prend même pas en compte.
Mais je veux... C'est pas une affirmation, c'est une question que je te pose à toi. Tu sais, Je suis sûr qu'à la DPJ, il y a personne qui consciemment se dit « On va tout extirper les enfants inuits qui sont dans des situations problématiques pour annihiler leur culture. » Je le sais que c'est pas ça.
Mais non.
Mais tu sais, ça serait pas une espèce d'accumulation d'un paquet de cossins puis de d'idées préconçues, de préjugés, de tu sais, qui au fil des ans, au fil du temps, ça doit s'intégrer aussi avec les, tu sais, la façon de fonctionner de la DPJ, tu sais, administrativement, puis à la fin, ben tu te ramasses avec des situations qui ont pas ben d'allure, puis ça va prendre un magistrat qui va dire, hey, wow, là, t'as peu là. Tu sais, puis peut-être, souhaitons que la douceur, c'est ça que ça va donner comme résultat. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a dû en avoir dans le passé aussi, tu sais, des juges qui étaient plus sensibles à ces réalités-là. Puis ça, regarde, on se retrouve là encore à élever des enfants avec FaceTime. Là.
Oui, il y a des juges qui ont été plus sensibles à ça, mais sortons un peu de cette dynamique-là juridique, puis allons-y un peu dans une dynamique historique. Où on a mis en place justement, que ce soit par la loi sur les Indiens, les pensionnats, on en a déjà discuté à l'émission, là, je ne referai pas toute l'histoire.
Mais il y avait un système, hein?
Mais il y avait un système dans lequel le but était justement d'éteindre nos cultures, de nous éliminer. Donc, puis si on regarde la Convention de Genève sur l'élimination du génocide puis la répression du génocide, prendre des enfants d'un groupe ethnique puis les retirer puis les amener, les déplacer sans le consentement du groupe, ça fait partie de la définition de génocide. Donc,
c'est comme dans la culture, hein? C'est sûr.
Ça fait partie des fondations du Canada.
De l'État colonial du Canada. J'aime ça.
L'État colonial canadien, les États coloniaux. Ceci étant dit, la volonté aujourd'hui n'est plus peut-être nécessairement de créer un génocide, mais on a plusieurs éléments qui nous démontrent que ne pas agir, c'est laisser le génocide se perdurer. L'enquête nationale sur les femmes assassinées et disparues, c'est une de ses conclusions à laquelle elle en est venue, que le génocide avait toujours lieu par omission d'agir. Donc, si on a justement des enquêtes, parce que c'est ça, là, c'est pas comme si les États coloniaux avaient pas dépensé un paquet de cash en enquête publique. Donc, on commence avec la Commission royale dans les années 90. Après ça, la commission Vérité-Réconciliation sur les pensionnats, l'enquête nationale sur les femmes assassinées disparues. Au Québec, on a la commission Vient, puis on a la commission Laurent par rapport à la protection de la jeunesse qui sont claires, nettes et précises. On dit faut laisser aux Premières Nations la possibilité justement de pouvoir gérer leur propre protection de la jeunesse. Si on a à intervenir dans des communautés, on a un paquet. Moi, j'ai déjà plaidé justement les conclusions de la commission Vient et le juge a même pas pris compte de ces éléments-là. T'sais. Donc, Si certains juges prennent pas en compte ça, imaginez-vous comment certains intervenants.
Ben oui, c'est ça.
Puis là, de plaider justement je le savais pas, tu sais, c'est que si tu le savais pas, c'est que t'es soit incompétent ou tu fais par exprès pour pas savoir.
Ben ouais, c'est ça, je dis tout le temps, c'est niaiseux. Si tu le savais puis tu l'as fait, t'es niaiseux, puis si tu le savais pas, t'es niaiseux. Fait que regarde là.
On se retrouve dans des situations comme ça où oui, il y a peut-être pas cette volonté-là de la part des organisations de protection de la jeunesse, mais le tort continue pareil.
Mais là, avec ce jugement-là, puis cette formation-là qui devrait être imposée aux intervenants de la DPJ, est-ce qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel? Est-ce que tu penses que c'est un pas significatif ou si c'est juste comme anecdotique puis ça changera rien?
Ben, des formations, ça fait longtemps qu'on en voit passer, là.
Silence qui en dit long.
Moi aussi, je suis très sceptique là-dessus, mais au moins la décision du juge, par exemple, elle devrait avoir une certaine portée.
Oui, elle devrait avoir une portée si, en plus, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse fait son travail.
Oui, puis il les a enjoints d'agir, là.
Ils ont enjoint d'agir. On va voir.
Ouais, c'est ça. On sait que des fois, la Commission des droits de la personne, on s'en souvient avec un certain cas de quelqu'un qui voulait assurer son automobile sur une réserve. Des fois, c'est pas.
Ouais, des fois, c'est long et fastidieux, ouais.
Ouais. On va espérer que ça fasse avancer le dossier au moins dans ces cas-là, tu sais, pour des enfants. Moi, je trouve ça épouvantable. Imagine, tu sais, j'imagine qu'il se ramasse dans une famille québécoise qui parle français. Lui, tu sais, les communautés inuites, ils parlent inuit ou anglais généralement. Fait que là, il arrive là, puis même si c'est un bébé, il est habitué à commencer à comprendre des mots. Là, il comprend rien. Il entend juste de blablabla en une langue qu'il connaît pas, avec des gens qui ne lui ressemblent pas, dans une culture qui ressemble en rien. C'est pour vrai, ça doit être un traumatisme, puis je pense qu'on devrait essayer d'éviter ça. Puis surtout pour pouvoir permettre, comme tu disais, ça, j'avais pas envisagé ce côté-là, le retour dans sa communauté plus tard de cet enfant-là, pour qu'il arrive puis qu'il se sente encore un peu partie de la gang, là, tu sais, qu'il soit pas aliéné, comme je disais.
Raciné, ouais.
Je m'en voudrais de pas citer quelqu'un qui a fait un commentaire, Kate, qui est toujours, toujours pertinente dans ses commentaires. Ça fait en sorte que ces jeunes-là, quand ils deviennent des étrangers partout, c'est très triste.
Ils vont se faire dire qu'ils sont pas vraiment des Québécois par le monde à cause de leur face. Puis...
comprendront pas leur langue quand ils vont retourner chez eux.
Ah, c'est assez désolant, mais on espère que ce jugement-là va ouvrir la porte vers des solutions. Alexis est avocat et spécialiste en droit des peuples autochtones. Merci d'avoir été avec nous.
Merci d'être venu faire le woke, de faire le woke avec nous autres.
Oui. Hey, c'est un bon woke de service.
On va faire une petite pause woke et on revient dans l'Express.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Martin, je sais que tu veux me parler de deux tatas. Je veux savoir pourquoi et comment.
Oui, tout à fait. Écoute, j'ai averti tout le monde. Je vous ai averti que je continuerai de suivre le dossier des initiations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bon. Ça fait longtemps qu'on parle, tu sais, du fait que le phénomène des joueurs nalistes existe et tu sais, bon, puis tout ça. Puis là, ben écoute, moi je peux pas en parler. Je m'excuse, je veux pas sembler m'acharner sur quelqu'un qui, Dieu sait, a eu son lot de gens qui ont pas trippé sur certains de ses propos. Même quand il était joueur, il a fait l'objet de
fait humer un petit peu, hein?
Une petite affaire. Et là, ben, écoute. Dans la foulée de la démission de Gilles Courteau, qui à mon sens est une admission d'avoir droppé à POC sans jeu de mots au sujet du dossier des initiations, de pas s'être bien préparé au sujet de la commission parlementaire. Ben écoute, Patrice Brisebois, fallait que s'exprime, Frank.
Ah, il s'est fait exprimer.
Ouais, c'est exprimé. Et là, ben, il commence par dire qu'il veut être clair. Ce qui est arrivé aux jeunes, c'est inacceptable. Lorsqu'il a appris ça, il a été complètement sidéré. Je me suis demandé où était la limite des jeunes. Et bla, yadi, yadi, yada. Mm-hmm. Ça, c'est correct. C'est tout à son honneur et tout ça. Mais, il mentionne, présentement, c'est bien de parler de Gilles Courteau, car c'est le hockey, un sujet chaud, et notre sport national. Gilles Courteau est le bouc émissaire, et c'est ça qui est pas correct. Patrice, de qui tu voulais qu'on parle? À propos de qui ça aurait dû être? Fait que là, en gros, Patrice, là, ça y fait quelque chose, là. Parce que là, tu sais, il a démissionné, là, chez les tranquilles, là. Puis là, tu sais, c'est pas de sa faute. Puis là, ben, son legacy, là, il va tout être comme graffiné. Puis moi, j'aime pas ça parce que, tu sais, Gilles, il est fin. Puis tout. Regarde, c'est comme ça marche, Patrice, dans la vie des grandes personnes. Si t'es à la tête de quelque chose, puis qu'il y a quelque chose qui a pas d'allure qui se passe, la personne, elle s'en va. Il y a pas personne qui a craché, a pu finir sur Gilles Courteau. La majorité des chroniqueurs. T'sais. Ben oui, la majorité des chroniqueurs qui en ont parlé, ben ils ont souligné aussi ses bons coups. Ils ont pas juste dit garochez-moi ça en dessous du boss. Puis non, non. Moi-même, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit écoute, c'est sur 37 ans. Tu trouvais
particulièrement indulgent, ben oui.
Ben oui, sur 37 ans, il a pas juste fait des conneries. Mais ça, Patrice, c'en est une crise de grosse. Tu comprends-tu?
Qui a duré longtemps.
Fait que là, moi, je commence à lire son commentaire, puis je me dis, hey, on va-tu en avoir un qui va s'élever, tu sais, puis qui va dire c'est ça qu'il fallait qu'il fasse le commissaire, puis regarde, c'est tough shit, c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ben non, ben
c'est
non!
C'est ça que tu demandais, tu voulais qu'un joueur, tu sais, influent se prononce, puis paf, c'est ça qu'il fait.
J'étais content que quelqu'un prenne la parole, puis là, je commence à lire, puis là, je lis au début, je veux être clair, ça n'a pas d'allure. Bon, parfait! Mais là, c'est lui le beau commissaire. Mais non, mais c'est pas de même ça marche, Patrice. Là, puis j'ai rien contre toi, puis ça n'a pas rapport. Sauf que, puis là, lui-même, il mentionne, écoute, il en a parlé publiquement, fait que je vais le dire. T'es un peu naïf à 16 ans et tu veux faire partie du groupe. De mon côté, on m'a écrit Bob Orr Superstar dans le front. Cela a pris une semaine avant que ça parte. On m'a coupé les cheveux et j'ai été dans les toilettes d'autobus avec d'autres gars. Il n'y avait rien de sexuel, mais j'ai été marqué par cela. Aujourd'hui, je suis extrêmement claustrophobe. Mais faut pas qu'on soit en maudit après Gilles, par exemple.
Mais c'est pas si grave ça quand même si j'en ai des séquelles toute ma vie.
Mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est l'archétype total et complet du dude qui fait partie du problème, qui dit, garochez pas le gars qui a géré cette ligue-là pendant 37 ans, qui a pas lu ses, qui a pas fait ses devoirs devant une commission parlementaire, puis mais by the way, là, moi, je suis traumatisé à vie. Hein. c'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? Il faut que ça en aille.
Il aurait peut-être dû réfléchir avant d'exprimer. Ben,
fait que tu sais, puis encore une fois, fait que ça, là, la morale de cette histoire-là, là, c'est que oui, OK, il va se passer des affaires, il y a du monde qui s'en va, il va avoir du sang neuf. Chekini, je trouve que c'est quelqu'un qui va être plus. Rien contre Gilles Courteau, mais tu sais, plus de son temps, plus dans le modèle communication. Il y a des entrées un peu partout. C'est un communicateur d'expérience. Gilles Courteau aussi, by the way, mais bon. Fait que là, puis là, ben, tu dis, tu sais, non, il y a pas de danger qu'il y ait un joueur étoile de cette ligue-là qui a joué dans la Ligue nationale, qui a gagné une Coupe Stanley, qui dise, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Faut faire le ménage. Faut changer la garde. The boys will be boys, it's over. Faut changer le boys club. Non, 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 c'est pas ça. Mais là, c'est pas bien fin pour Gilles, là. Mais c'était Gilles, le boss. Puis, tu sais, Patrice, toi, si t'es boss d'un restaurant, là, puis que c'est tes employés, c'est des maillets, ben c'est à toi qu'ils vont aller demander, ils vont aller poser des questions, là. Si c'est toi qui laisse, qui permet qu'il se passe des affaires, puis c'est toi qui es à la tête de ça, ben c'est tout à fait normal que ça soit ta tête qui roule à un moment donné. Ben fait oui. Que je encore une fois, tu sais, j'espère que ça n'alimentera pas j'espère que ça n'alimentera pas le fait que va se perpétuer cette espèce de douchebag country club des initiations. Puis en plus, l'autre affaire qu'il rajoute, parce que là c'est juste à propos du hockey, mais là l'autre affaire qu'il rajoute, écoute ça là. What about les hommes d'ex-joueurs de hockey?
Oh non.
Comment ça qu'on regarde pas les autres sports? Il y en a dans les autres sports des enfants. Dude, laisse faire ça, là.
But what about baseball?
Ben ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que là, du la gros what about les hommes à côté. Ouais, oh ouais, c'est ça. Je veux juste aller te lire la quote. Je trouve ça triste. Les gens vont se souvenir que des missionnaires, elles ont des initiations au hockey. C'est pas correct. Cet homme a tout donné. Il a hypothéqué sa famille. Il a fait des heures, des... Il était payé, Patrice, comme toi, là.
Il a accepté la job aussi, là. Il a pris la job, il a pris la fille qui venait avec. Puis d'après moi, sa retraite devrait être pas pire, là. Il sera pas dans un centre d'accueil à manger de la purée qui ressemble à du vomi en regardant les machines passer par la fenêtre, là. D'après moi, il va être bien, là. Il va être correct.
L'ancien acteur sur l'âme, c'est vraiment chercher des synonymes. L'ancien acteur sur l'âme, qu'est-ce que c'est ça? Il a mentionné que ses deux filles vont à l'université McGill et qu'il y a aussi, je m'en sers, qu'il y a des initiations, du même élan, il affirme que ses deux filles vont à l'université McGill et qu'il y a aussi des initiations là-bas. Pendant une semaine, ils font le party. C'est pas juste dans le sport. De plus, il leur aimait. Patrice, c'est de hockey qu'on parle, là. Là, t'es en train de mélanger le steak puis les petits pois. Ça n'a pas de rapport. Ben oui, il y a des initiations dans. C'est quoi tu veux faire? La commission parlementaire qui parle de hockey va aussi légiférer sur les parties dans les universités. Voyons, Patrice, tu sais que t'arrives, toi, avec ça. C'est ce que
ça
me.
Ça rend pas quand même qu'il ferait pire ailleurs ou ben tu sais exactement pareil mais ailleurs. Est-ce que ça rend ça moins grave? Mais c'est une technique bien connue, comme je disais, notamment très utilisée chez Fox là. OK, ouais, Trump il a dit telle affaire. But what about the Democrats? What about tu changes de sujet, tu essaies de diminuer la gravité de la nouvelle en la comparant à quelque chose de semblable ou de pire. Tu sais, est-ce que comme si ça annulait le caractère inacceptable des propos? Ben, tu sais,
c'est une technique
de communication quand t'es partisan. Là.
Frank, Patrice Brisebois n'a pas de technique de communication. Maillet.
Oh, oui, mais il a le réflexe d'être parti, d'avoir un parti pris puis de vouloir le défendre. Fait que là, ouais, mais lui aussi. Tu sais, des enfants, c'est comme ça aussi. Ben ouais, là, c'est pas brossé les dents. Ouais, mais lui non plus, puis c'est pas lavé les mains en plus. Hein? Fait que chicane-les avant moi.
C'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il cite à titre d'exemple les initiations à l'université pour ses filles qu'il faut qu'ils boivent des shooters, alors que là, on parle de monde qui se font attacher le pénis avec des cordes et rentrer des bâtons de hockey dans le cul.
Ils se font violer, okay? Là. Ouais, c'est pas même
fait affaire, que regarde, là, tu sais, peut-être revoir, tu sais, les analogies que tu choisis pour dire que Gilles Courteau fait pitié, Patrice, là. C'est mon conseil.
Ouais, se déguiser en clown puis aller de faire la tournée des bars, c'est pas pareil que se faire violer, bon, Patrice.
Fait que c'est ça. Pis là, ben écoute, faut que je te parle d'un autre grand champion.
Oui donc.
Est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle... Moi, son nom me disait quelque chose, mais Frédéric Bastien, ça te dit quoi ça?
Non.
Bon, Frédéric Bastien avait brigué la chefferie du Parti québécois en 2020.
Oh, collé.
Ouais, 5 janvier... c'est le 5 janvier dernier qu'il a fait ce dont je vais te parler, mais c'est en 2020 qu'il avait soumis sa candidature, ben, qu'il s'était présenté pour la chefferie. Et là, ben, c'est un chroniqueur et un historien, comme je disais, Frédéric Bastien, qui a, écoute, je sais pas, je sais pas trop comment te présenter ça. Il a tenté de poursuivre de façon privée, mais à travers les poursuites pénales canadiennes. Le SPPC, le Service de poursuite pénale du Canada, il a soumis une poursuite à l'endroit de Justin Trudeau. Et je t'explique sa prétention, c'est de dire que il y a une déclaration qu'il a faite dans un tweet dans laquelle il écrivait « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. » Tweet mythique de Trudeau, je me souviens pas de quelle année exactement, là, il me semble que c'est en 28 janvier 2017. Et il soutenait que ce gazouillis-là, ce tweet-là, il était en contravention de la loi, de l'article 117 de la loi sur l'immigration, que c'était une invitation aux demandeurs du statut de réfugié à franchir irrégulièrement la frontière par le chemin, notamment par le chemin Roxham. Mmh. Dans le deuxième cas, il reprochait au premier ministre d'avoir illégalement communiqué des renseignements faux et trompeurs en vue d'encourager l'immigration au Canada lors d'une allocution prononcée le 12 juin 2022, contrevenant cette fois-ci à l'article 127 de la loi sur l'immigration. Les vérifications de la presse canadienne démontrent toutefois que le premier ministre Trudeau n'a fait aucune allocution à la date précisée dans la dénonciation. C'est fourré de date. Ouais. Fait que, évidemment, que tu te doutes bien que les procureurs fédéraux ont conclu que M. Bastien n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause, de sorte qu'ils ont préféré ne pas soumettre sa dénonciation à la Cour. Fait que ça fait partie du processus. En fait, ce que je viens de te raconter là, c'était l'étape numéro 1 qui faisait en sorte que on verrait s'il y aurait étape numéro 2.
Ce
qui
ne sera pas...
Ben non, ce qui ne sera fucking pas le cas.
C'est mort dans l'œuf, comme on dit.
Ben ouais, c'est ça. Mais là, ça me fait te poser une question plus existentielle que ça. T'sais, est-ce que là on en a parlé, il y a l'arrêt Jordan, il y a un paquet d'affaires, on a déjà établi que le système judiciaire du Québec a la langue à terre, que ça manque de ressources, les greffiers, greffières, sac le camp.
Manque de juges.
C'est le bordel, manque de juges, manque de disponibilité, des dossiers qui devraient être traités rapidement, c'est traité 2 ans plus tard. Là, c'est rendu qu'il y a des agresseurs sexuels qui peuvent invoquer j'oublie le nom
de ces projet de loi qui leur permet de passer leur sentence chez eux à jouer au PlayStation puis à manger de la pizza. C'est ça.
Mais là, est-ce que
c'est
on
5,
voit,
parce que
c'est 5, me semble, c'est ça. Dieu sait qu'il y en a eu des tentatives, que ce soit au sujet des mesures sanitaires. Là, c'est Trudeau. J'aime pas Trudeau. Fait qu'on va trouver un spin pour le poursuivre puis toute la quitte. Est-ce qu'on s'approche entrons-nous dans l'ère de où tout pourra être prétexte à poursuivre des je dis pas que, tu sais, je veux dire, tu peux pas poursuivre, tu sais, impunément à propos de n'importe quoi, n'importe qui. T'sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au civil, c'est pas pareil. Au civil, c'est une autre démarche.
Tu peux quiruler un peu plus au civil, je pense.
Oh ouais, c'est ça. C'est une autre démarche. Mais tu sais, est-ce qu'on s'en va vers une ère ou est-ce qu'à toutes les fois qu'il va y avoir quelque chose qui fera pas ton affaire, ben tu vas essayer d'intenter des poursuites puis tu vas essayer d'organiser des patentes pour faire en sorte que de demander réparation à propos de tout pirier. Est-ce qu'on s'approche d'une ère ou est-ce qu'on est entré? Puis là, c'est pas juste des mayonnaises aux pommes puis des affaires de même là, qui font ça. Là, là c'est tu sais, écoute, c'est quelqu'un qui a tenté d'accéder à la chefferie du Parti québécois. T'as vraiment. Moi, ça me fait un peu capoter de voir ça aller. Puis en même temps, tu sais, on n'a jamais reçu, nous autres, c'est tout à fait étonnant.
Même pas de mise en demeure pour nous autres. Mais tu sais, aux États-Unis, c'est déjà un peu ça. Là, c'est I'll sue you. Là, c'est le sport national qui est en train de remplacer le baseball puis le football, là, la poursuite judiciaire. Mais je pense que notre système pourrait pas soutenir une tendance comme ça.
Ben c'est ça.
Moi ce que je vois c'est une espèce de déclin. Je suis pas en train de dire que les buildings vont s'effondrer puis ça va être le blackout puis on va se promener dans la rue avec des torches en feu puis piller des commerces là, mais on dirait une espèce de déclin de notre modèle sacro-saint modèle québécois là, tu sais, l'éducation ça va super mal. Puis la seule solution qu'on a trouvée, c'est de niveler vers le bas, tu sais, parce qu'on n'est pas capable d'enseigner notre langue à nos enfants, ni même les mathématiques maintenant. Le système de santé, ça va dans la même direction, c'est-à-dire vers le bas. On trouve pas de vraies solutions. On déplace du monde, mais tu sais, c'est de pire en pire. Dans le domaine judiciaire, comme tu viens de le dire aussi, manque de juges, manque de greffiers, de greffières, manque de... Tu sais, est-ce que toutes nos institutions sont en train de tomber à terre, là? On est-tu comme sur le déclin là, de l'Empire québécois? Là,
ben moi, je vais te dire que le risque à moyen terme, on verra pas ça, moi pis toi, mais tu sais, le risque, là, c'est qu'à un moment donné... Ce droit-là, inaliénable de poursuivre ou de demander réparation, mais Chris, vous allez faire en sorte que vous allez le perdre. Parce qu'à un moment donné, là, tu pourras pas poursuivre à tout vent pour n'importe quoi parce que quelqu'un a pété dans le métro puis tu trouvais que ça puait puis des affaires d'avant. Tu sais, parce que notre système de justice ne peut plus supporter ça. C'est en train de craquer de toutes parts.
Non, c'est
fait
ça.
Que vos niaiseries puis vos poursuites de tata puis de maillet puis des d'affaires à coucher ou de retenter les mêmes poursuites à répétition alors qu'il y a eu aucune traction d'aucune part, que ce soit la Fédéla Tapouette, que ce soit le gars qui est parti, je me souviens plus trop, là, qui voulait légaliser le pote, là, toutes les poursuites qui ont été présentées au sujet des mesures sanitaires sont faites rire d'en face, virer de bord, c'est un dissène. Mais est-ce qu'à un moment donné, on pourrait déterminer que, regarde, c'est fini, là, ça, ça marche plus, ça, là. C'est terminé, ça, cette affaire-là, vous allez lâcher ça, là, ça
ben
va
sinon,
faire.
Le droit va perdurer, mais on n'aura juste pas les ressources pour l'assurer. Fait que ça va être la même affaire que si on l'avait pu. Tu sais, il y a du monde qui poursuivent, comme il y a des gens qui vont, les plaideurs qui rulent, là, pis ceux qui font ça comme loisir, là, de contester, de poursuivre, vivre de tout ça. Là. Et ils sont au système de justice, au système judiciaire, ce que ceux qui vont à l'urgence avec un rhume sont au système de santé. Là. Sont en train de, par leur abus par leur utilisation abusive du système, ils sont en train de pénaliser ceux qui en ont vraiment besoin.
Ça va-tu prendre un ticket modérateur du système judiciaire?
Il ne faut pas, à un moment donné.
Mais non, faut pas. Moi, je suis totalement contre ça. C'est primordial. Mais
on va être pris pour faire ça.
Mais écoute, quand t'es rendu que t'as du monde qui poursuit pour un oui puis pour un non, tu sais, ça pas. Puis là, c'est parce que pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait le même décorum pour leur niaiserie que pour des choses importantes. C'est ça l'assise même de ce système-là, c'est le décorum, c'est la procédure, c'est le fait que tu peux. C'est pour ça que tu peux pas. Marie-Louise Tardif, qui est sous le coup d'une enquête criminelle, peut pas dans une cour de justice tenir des propos comme celle qu'elle a tenue à un témoin d'une personne qui la poursuit. Tu peux pas dire, toi, on va s'occuper de ton cas pis ça n'aille pas de conséquences. Qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est que c'est pas une hostie de free-for-all, une salle de justice.
Mais
c'est pas à cours d'école, là.
Mais même l'exercice de déterminer si une poursuite est valable engage aussi des ressources puis fait perdre du temps.
Ben oui.
Puis, c'est
un moment de. Puis la jurisprudence, là, avant, c'est mon impression, je suis pas juriste, mais la jurisprudence, c'est quelque chose, c'est une ressource qui permet à des magistrats de s'y référer pour savoir si qu'est-ce qui s'est passé dans des situations similaires. Mais là, c'est plus, je veux dire, c'est plus à ça que ça sert, la jurisprudence, là. Là, c'est rendu que tu. Regarde, prends l'exemple de la Fédé Latapouette. Il y a eu 3 ou 4 poursuites avant eux autres qui sur les mêmes bases. Que c'est anticonstitutionnel, les décrets, tout le kit. Juste au Québec, ça fait 2-3 fois que ça se fait revirer de bord. Comment ça qu'ils sont encore là, eux autres? De quoi vous allez aller débattre? Il y a plusieurs juges, il y a plusieurs magistrats qui ont dit, faites l'air avec ça. Il n'y a pas d'assises sur lesquelles je pourrais donner cours à une procédure comme ça. Fait que là, ils ont trouvé un autre gamique. On va en packager ça, puis on va mettre 3-4 cossins dedans. Fait que là, il n'y aura pas le choix. Il va revirer ça de bord, mais il va être obligé de nous entendre sur nos experts et ces affaires-là. C'est une perte de fucking temps et de ressources dans un système qui est déjà à terre puis qui a déjà la langue à terre. On peut-tu se consacrer plus à ce qu'il y ait plus de dossiers d'agression sexuelle puis de qu'ils soient entendus que du niaisage de même? Je comprends que c'est pas toujours la même cour.
Mais aussi, pour que ce soit juste puis qu'on ait tous accès à la justice, ça a comme pas le choix de marcher de même. Je sais pas ce qui va arriver, mais pour l'instant, on voit que des causes qui tombent, des poursuites, des affaires importantes qui tombent parce qu'on manque de ressources. Fait que faut trouver une solution à ça. Hey, on ne pourra pas inventer des juristes, des avocats, des juges. Là. Fait que je sais pas.
La grosse nouvelle, toi, hier, tu sais, la chose dans le dossier de la Société d'assurance automobile du Québec. Bon, la ministre Guilbeault est en Europe, là, le yob est aux vaches, elle cancelle ses vacances, elle s'en revient ici. Là, il y a une madame saucée à côté qui fait une publication Facebook qui montre une autre publication Facebook dans laquelle c'est écrit... La madame, elle partage le post de Geneviève Guilbeault puis elle fait un commentaire. Regardez, là, c'est parti. Et voilà, ils sont en train de tout instaurer ça, l'identité numérique puis toute la patente. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre des bornes dans les bureaux pour que les gens qui se rendent puissent passer plus vite parce qu'il y a peut-être des transactions, tu sais, des bornes.
Centraliser des services aussi.
De services. Ben oui. Qu'est-ce que la Fédé Latapouette fait? On va intervenir dans ce dossier-là sous peu. Qu'est-ce que tu vas intervenir, toi? Tu n'es même pas capable de, en tout cas.
Mais tu sais, ils ont trouvé une solution pour pallier au manque d'effectifs. Bon, elle marche pas parce que c'est informatique et que c'est le gouvernement qui l'applique. Donc, ça marche jamais, là. Le gouvernement, c'est tout le temps à voir, pas à faire le même. Mais au moins, tu sais, je veux dire, c'est la seule solution intelligente c'est la seule solution disponible parce que du personnel, on peut pas en faire pousser dans le champ, là. Tu sais, on manque de fonctionnaires, on manque de ressources. Fait que de centraliser ça puis d'automatiser ça, c'est une solution qui était tout à fait logique et inévitable. De toute façon, la technologie C'est sûrement ce qui va pallier pour le manque de ressources humaines, là. Mais je veux dire, dans l'imaginaire de conspirationniste, ben là, ça devient de l'identité numérique, puis ça, tu sais, il y a toutes sortes de scénarios, tu sais, qui ont pas d'allure, qui sont évoqués, là. Mais dans la vraie vie, c'était la chose à faire. Ça marche pas, bon, pour des raisons que j'ai expliquées, mais ça va finir par marcher.
La société québécoise a pas besoin que la Fédéla Tapouette intervienne dans rien. Ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que les membres de la Fédéla Tapouette subissent une intervention. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Parce que là, c'est ridicule, c'est n'importe... Faites-vous lire votre petit club social, c'est bien correct, ça. Moi, j'ai rien contre ça, j'ai jamais rien dit au sujet de... Embarquez pas là-dedans, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de staller le système judiciaire en prétendant que c'est pour nous autres.
Je veux rien savoir, moi. J'ai un flash, moi, pour la fondation des droits de la personne du peuple de glorieux, en tout cas de Stéphane Blais. Faites-vous un bicolline judiciaire. Allez faire le jeu de rôle. Faites la même affaire que vous faites là, là, tu sais, puis ça va avoir le même résultat de toute façon, là. Mais allez à bicolline, là, puis déguisez-vous en avocat, mettez-vous des perruques puis des toges, puis allez jouer au tribunal, là, dans une patente l'imaginaire, là. Faites ça à la place. Ça va donner le même résultat. Vous allez avoir plus de plaisir, puis vous allez peut-être même gagner vos causes. Tu sais, c'est... Faites-vous ça, une affaire, tu sais, imaginaire. Non?
Ça marchera pas. Ben non, ils vont chicaner, Frank, voyons.
Ben ouais, c'est pas grave, ils chicaneront dans leur bicolline.
Si l'histoire a démontré une chose depuis 3 ans,
oui.
OK? C'est que c'est impossible de faire partie d'une organisation avec Stéphane Blais. Oui, il va en avoir un, bicolline, il va être tout seul.
Non, non, mais qu'il y aille tous, puis qu'il amène les épées en mousse, là, comme les autres qui font les grandeurs de nature. Comme ça, quand le tribunal imaginaire échouera à déboucher sur une entente, ils se taperont-tu que les épées en mousse, ça va peut-être leur faire du bien. Mais c'est c'est la seule vocation viable que je vois à cette fondation-là. Là, c'est de... Regarde, vous aimez ça? Imaginez des affaires, des Nuremberg 2.0, puis des causes les plus importantes pour l'humanité. Vous êtes en tort. Ben, crime, à la bicolline, ça existe des places pour du monde comme vous autres, là, qui vivent dans l'imaginaire, puis dans les vœux pieux. Allez-y, là.
Va te montrer.
Oui, je respecte, Kate, je respecte le grandeur de nature. Je veux juste en faire bénéficier les gens de la fondation.
Je veux te montrer dans moi 2 secondes, parce que là, c'est pas prêt.
On peut-tu payer pour voir ça, Sweetwater? Oui, j'avoue que...
Ah, moi, c'est sûr que je...
Il y aurait un Teams.
Je pense pas que j'aurais grand intérêt, mais en tout cas, regarde.
Moi, je les vois dans une cour médiévale, Stéphane avec sa perruque blanche, puis des grands gestes.
Faut que je te montre la caricature de Chapelot au sujet de la démission de Gilles Courteau, c'est juste parfait.
Oh oui, c'est parfait.
Si tu peux pas... Il n'y a rien à ajouter à ça. Ben oui, on l'a remis 2 fois, qu'est-ce que tu veux, Breaking News, on a été sains. Ben oui, c'est ça, exactement. Écoute, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais je vais partager ça avec tout le monde, parce que il y a un chercheur de l'université de Sydney, ben pas un chercheur, mais un docteur, en fait, de l'université de Sydney, qui s'est penché avec son équipe sur la reproduction de la dérive des continents. C'est vraiment... hyper spécial.
De la Pangée jusqu'à ce qu'on connaisse aujourd'hui.
Ben, je ne sais même pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu viens de dire.
La Pangée, c'est l'époque où toutes les terres de la planète étaient reliées entre elles. Il y avait juste un super continent sur Terre, puis le reste, c'était la mer. Ça s'appelait la Pangée, ce continent-là. Ben, ça, on l'appelle aujourd'hui parce qu'il n'y avait personne dans ce temps-là, évidemment. Il n'y avait même pas de vie. C'est ce qui a précédé la dérive des continents. Si tu prends la map monde, c'est comme un casse-tête. Tu peux emboîter tous les pays, les continents, les uns dans les autres pour reconstituer une Pangée.
Bon, ben parfait. Fait que on va se pencher là-dessus. c'est 100 millions d'années, en fait. Ça recule 100 millions d'années dans le passé. Puis je vais vous montrer ça. Donnez-moi une petite seconde. C'est-tu le bon... oui, voilà. Fait que je vous l'ai ralenti un petit peu parce que ça allait quand même assez vite. Là, il y en a une portion qui est comme... fait que tu vois, 100 millions d'années, il y a 2 versions. Tu vas en voir une avec les reliefs. Moi, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est de voir l'Inde se pluguer. L'Afrique aussi, la corne de l'Afrique, c'est pas attaché pantoute. Là, ce qui fait l'Afrique maintenant, c'est quand même assez capoté. Mais regardez bien. Puis quand l'Inde se plugue, ben c'est ça qui a créé l'Himalaya, tu sais, les chaînes himalayennes et tout ça. Si ça n'avait pas été des connexions qui se sont faites, ben le continent qu'on habite, nous autres, on n'aurait pas pu venir ici. Évidemment, parce qu'on sait que c'est par en haut qui sont passés. T'as la même affaire, là, tu vois, c'est parce que je l'ai ralenti, je pense que je l'ai mis à 75%. Mais tu sais, cette modélisation-là, ça a pris ben du travail. Parce qu'écoute, là, tu reproduis des mouvements qui se sont déroulés sur 100 millions d'années. Mais c'est pas mal intéressant. Puis selon, évidemment, selon ces chercheurs-là, ben ce que ça va permettre de faire, là, je m'aventurerai pas dans l'explication de comment ils ont fait pour savoir. Parce que cette modélisation-là, ce qui explique ça, c'est à 10 kilomètres d'échelle. Pense-y, là. Fait que t'as-tu idée de la mode, comment ça a dû être gigantesque de tout ramener ça, de tout modéliser ça? Ça a dû être, il y a dû, j'aurais pas pu faire ça avec mon MacBook, je pense.
Non, c'est intéressant de le voir sur un modèle de globe, hein, parce que la carte du monde telle qu'on la voit d'habitude, elle est complètement disproportionnée, là. Tu sais,
quand
tu regardes ça, je veux dire, l'Amérique du Nord, ou ben, tu sais, quasiment juste le Canada, ça a l'air aussi gros que l'Afrique, alors que, tu sais, si tu les mets un à côté de l'autre, c'est même pas proche, là. T'sais, les proportions ne sont pas respectées pour qu'on soit capable de mettre ça sur une surface plane qui est comme une carte. Mais sur le globe, ça conserve les proportions. Fait que c'est encore plus réaliste. C'est vraiment cool. Très cool.
Vous l'avez vu tantôt. On va faire un petit peu d'infomercialisation. Ça bâton sur Touski TV en fin de semaine. Vous l'avez vu. Il va y avoir un nouveau show vendredi. Ceux qui suivent Bleu et Nuit, qui sont là dans les heures tardives, ont eu quelques scoops hier soir sur ce que c'était pour être. On va teaser ça toute la semaine tranquillement. Alors, j'en dirai pas plus. Mais soyez là vendredi à midi. Donc, évidemment, l'express, ça change pas. C'est du lundi au jeudi. Mais vendredi, il y aura quelque chose ici même. Et l'autre affaire, c'est que oui, ce sera la grande première international worldwide, toute la patente de Karate Clip vendredi soir, donc à 20h. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de tout ce qui show, ça va continuer, soyez sans crainte. De toute façon, on va tous vous rappeler ça dans le courant de la semaine, mais je tenais à le dire officiellement là, pour que tout le monde soit bien expliqué, bien excité, n'est-ce pas?
bien excité.
Oui, c'est excitant d'expliquer. Fait que voilà. Fait que ça va être ça. Ça va être pas mal ça. Puis c'est ça. En fait, je voulais surtout teaser ça, mais surtout dire merci, bien sûr, à Alexis. Toujours sympathique de le recevoir.
Oui, c'est vraiment le fun toujours d'avoir quelqu'un de bien informé, tu sais, à ce sujet-là, tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui se prononce, il y a bien des journalistes qui se prononcent, mais lui, ben écoute, il est avocat puis il est spécialisé en droit des peuples autochtones, fait que c'est toujours fun de le recevoir. On va se quitter là-dessus pour cet express-là. On se reparle demain à midi. Soyez là.
Membre de la famille H2O Web Media.